C'est pour moi une vraie joie et je suis heureux d'être avec vous en ce dimanche de l'association, car pour nous, l'association de nos églises a été une grande aide ces derniers temps et ces dernières années pour nous, Église de Colmar. Que ce soit par les prédications d'Antoine Doriat, qui vient tous les mois et nous aide beaucoup par la prédication, nous lui sommes reconnaissants, et Étienne Gros-Renaud, qui, au service des églises d'association, est un grand encouragement, notamment pour nous, les responsables de l'Église. Donc voilà, merci à l'Église de Mulhouse et merci à ceux que j'ai nommés, même s'ils ne sont pas là ce matin, tout particulièrement. Alors, j'ai déjà été présenté un tout petit peu, merci Jean-Marc. Peut-être encore l'une ou l'autre chose, comme ça vous saurez un peu mieux qui vous parle ce matin, qui vous avez osé inviter, nous ne le connaissons pas plus que ça. Je suis donc un des trois anciens de Colmar, une église qui n'a pas de pasteur depuis bientôt 2 ans et demi, marié, Carole, quelques-uns d'entre vous la connaissent. Nous avons 3 enfants, 1 petit enfant, et dans 2 mois, le deuxième doit normalement arriver. Je suis d'origine portugaise, ce qui explique ma petite prononciation qui n'est pas du tout d'ici. Je suis venu en France, j'avais 13 ans. La première fois que j'ai été dans cette salle, que je suis venu dans cette salle où j'ai vécu un culte avec l'église de l'époque, c'était en 1970-71. Donc ça fait un beau moment. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai compris l'amour et la bonté de Dieu pour moi. Et Jésus-Christ, en pardonnant mes péchés, est devenu mon sauveur. Je suis donc maintenant à la retraite. Mes 32 dernières années de vie professionnelle, je les ai vécues à l'usine de Peugeot, où j'ai eu le privilège aussi de côtoyer Jean-Paul Ropp. Pendant quelques années, nous travaillons à quelques mètres l'un de l'autre. Voilà, vous avez un tout petit aperçu de qui je suis. Durant toute notre vie, nous avons des décisions à prendre, des choix à faire. Et si nous pouvons nous féliciter lorsque nous faisons un bon choix, lorsque nous prenons une bonne décision, nous savons par contre qu'un mauvais choix, une mauvaise décision peut avoir des conséquences fâcheuses, aussi bien pour nous, pour notre vie, ou même pour la vie des autres. Par exemple, un alpiniste qui décide de s'attaquer au Mont Blanc sans avoir pris les précautions qu'il faut auparavant peut mettre sa vie en grand danger et même la vie d'éventuels sauveteurs. Je vais lire quelques passages de la parole de Dieu qui nous parle de certains choix qu'ont fait Abraham et Lot et qui ont été des mauvais choix. Des choix qui ont eu des conséquences bien néfastes pour leur vie, pour leur vie à tous les deux. Alors, je vais lire quelques passages. Le premier dans Genèse 12, et je lis les versets 1 à 7. Genèse 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Et le deuxième passage, Genèse 13, versets 5 à 13. Lot qui accompagnait Abraham avait aussi des moutons, des chèvres, des bovins et des tentes. Et le pays ne suffisait pas pour qu'ils puissent habiter ensemble. car leurs troupeaux étaient trop nombreux, et de plus les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Alors les bergers d'Abraham se disputèrent avec ceux de Lot. Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt, tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Et du verset au chapitre 19, verset 12 à 14. Alors les deux hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Et encore verset 14. « Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres prirent ses paroles pour une plaisanterie. Il y a encore quelques versets, toujours dans ce chapitre 19, 30 à 38. Par la suite, Lot quitta Tsoar, car il avait peur d'y demeurer. Et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aîné dit à la cadette, « Notre père est déjà âgé, et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. » Cette nuit-là, elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aîné vint partager la couche de son père qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici que la nuit dernière, j'ai couché avec mon père. Enivrons-lui encore ce soir et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et la cadette alla s'étendre auprès de lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné eut un fils qu'elle appela Moab, qui veut dire issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette aussi eut un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu long la lecture, mais pour bien situer dans le contexte, c'était important de lire, de faire ces lectures. Plus d'une fois, en lisant ces textes, je me suis posé cette question. Dieu, quand il a dit à Abraham de partir de son pays et de quitter sa famille, lui a-t-il dit de prendre Lot avec lui? On peut se poser la question et légitimement en douter. En effet, le texte nous dit que Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père, son pays, sa famille et de partir. Il ne lui a pas dit d'emmener avec lui une partie de la maison de son père, une partie de sa famille. Lot était le fils du frère d'Abraham, c'était donc le neveu d'Abraham. Et Lot était orphelin, en tout cas orphelin de père, puisque le texte dit que son père venait de mourir. Et Abraham le prit donc avec lui. Par compassion peut-être, désirant l'aider sûrement. Mais Dieu avait dit à Abraham, « Quitte ta famille et va dans un pays que je te montrerai. » Alors, je ne me permettrai pas d'affirmer qu'Abraham a désobéi à Dieu en prenant Lot avec lui, car la parole de Dieu ne l'affirme pas. Mais Abraham n'était pas parfait, comme nous ne sommes pas parfaits, et il a fait des erreurs, comme nous. Nous pouvons faire également des erreurs, malgré notre désir, notre volonté d'obéir et d'être fidèle à Dieu. Si Dieu a demandé à Abraham de se séparer de sa famille et d'aller s'installer au loin, c'est parce qu'il voulait susciter du milieu de l'humanité corrompue un peuple qui le reconnaîtrait pour Dieu, qui l'écouterait et le servirait. Et Dieu a choisi Abraham pour être le peuple, pour être le père de ce peuple-là. C'est pourquoi la séparation entre Abraham et Lot était inévitable. Elle devait avoir lieu. Et le peuple descendance d'Abraham est devenu plus tard le peuple d'Israël. Un peuple qui ne devait donc logiquement avoir aucun lien avec Lot. Il devait être la descendance d'Abraham et d'Abraham seul. Ce qui fait donc supposer qu'Abraham, en prenant avec lui son neveu Lot, a bien commis une erreur et a dû suivre sa propre idée, son propre désir, sa propre volonté. Et par la suite, l'histoire et les conséquences de la présence de Lot auprès d'Abraham confirme, me semble-t-il, cette supposition. Nous avons lu ceci dans Genèse 12, verset 4. Dieu dit à Abraham, « Laisse la famille de ton père, pars dans un pays que je te montrerai. » Et tout de suite après, l'auteur fait cette constatation. Abraham partit avec Saraï, sa femme, et Lot, son neveu, s'en alla avec lui. Ainsi, nous constatons qu'Abraham ne s'est pas complètement séparé de la maison de son père comme Dieu le lui avait demandé. Et à partir de ce moment-là, Lot va le suivre partout. Quand Abraham part en Égypte parce qu'il y a la famine en Canaan, Lot est avec lui. Quand Abraham revient d'Égypte, Lot est encore avec lui. Et il est précisé dans ce texte que Lot avait lui aussi de nombreux troupeaux. Et c'est précisément à cause de leurs biens, à cause de leurs troupeaux, qu'une dispute, une sérieuse dispute va éclater entre eux, entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Pourquoi ? Parce que là où ils étaient installés, il n'y avait pas assez d'eau pour leurs troupeaux. Alors jusque-là, les choses étaient plutôt bien passées entre eux. Mais ce jour-là, ils sont obligés de constater qu'il leur est impossible de continuer à demeurer ensemble. Et ils décident de se séparer. Et Dieu va alors utiliser cette mésentente, cette impossibilité pour eux de pouvoir continuer à vivre ensemble, pour réaliser ce qu'il avait promis initialement à Abraham, lui donner ce pays de Canaan à lui et à lui seul. Et ce n'est pas étonnant que Dieu ait attendu le départ de Lot pour renouveler sa promesse à Abraham. En effet, dès que Lot est parti, Dieu s'adresse à Abraham pour lui rappeler sa promesse, que je lis dans Genèse 13, versets 14 à 17. 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde. » Depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre, si l'on peut compter les grains de poussière de la terre. Alors, on pourra aussi compter ta descendance. Ce n'est pas la seule fois où la Bible parle de situations, d'exemples, où nous voyons que malgré la désobéissance de l'homme, Dieu va quand même accomplir ce qu'il avait prévu. Personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses plans. Je vous donne un autre exemple qui a un rapport avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. Quelques 500 ans après avoir fait cette promesse à Abraham de lui donner ce pays, le peuple d'Israël, après avoir quitté l'Égypte, sous la conduite de Moïse, arrive aux portes de Canaan, ce pays que Dieu leur avait promis, que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance. Mais le peuple refuse d'y entrer, persuadé que ce que Dieu leur demande n'est pas pour leur bien, est au-dessus de leur force, ne peut pas être pour leur bien. Et ils retournent en arrière. Ils vont errer ainsi durant 40 ans dans ce terrible désert qu'ils venaient de traverser. Et au bout de ces 40 ans, le peuple entre enfin dans le pays que Dieu leur avait promis. La promesse de Dieu s'est accomplie. Le peuple a hérité du pays promis à Abraham, mais que de souffrances. Que d'épreuves ils auraient pu s'épargner s'ils avaient obéi à la voix de Dieu 40 ans plus tôt. Parce que Abraham n'a pas fait entièrement comme Dieu lui a dit de faire, il va vivre lui aussi une épreuve qu'il aurait pu s'épargner s'il s'était soumis en tout à Dieu. Et si cette épreuve n'avait été que les disputes entre lui et Lot, entre ses bergers et les bergers de son neveu, cela n'aurait pas été trop grave. Mais c'est bien plus tard, des siècles même plus tard, que le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham, va subir de plein fouet les graves conséquences du choix d'Abraham d'avoir pris Lot avec lui. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais l'enseignement que nous pouvons en tirer déjà pour nous-mêmes de cet épisode de la vie d'Abraham, que je viens de résumer très brièvement, c'est que nos choix ne sont jamais sans conséquences. Et s'ils ne sont pas soumis à Dieu, celui que nous appelons Seigneur et Maître, les conséquences peuvent être désastreuses. Mais parce que Dieu est souverain et que les projets qu'il a pour les hommes et pour nous aussi, bien sûr, nous qui en plus sommes ses enfants, parce que ces projets, il veut les réaliser, parce qu'il a décidé de les réaliser, il le fera. Même si pour y arriver, il va parfois être obligé de nous faire faire des détours. Parfois, il nous laisse faire des expériences dont nous nous serions bien passés, mais au final, ces expériences sont notre salut, car elles nous ramènent à Dieu. C'est leur but, en tout cas. Lot a lui aussi fait des mauvais choix, de très mauvais choix. Et les conséquences de ces mauvais choix seront un vrai désastre pour lui, pour sa famille, et plus tard pour tout le peuple d'Israël, et pour son propre peuple à lui, bien sûr. Quand ils se sont séparés, Abraham a donné à Lot le choix de l'endroit où il devait aller s'établir avec sa famille et ses troupeaux. Et qu'est-ce qui a motivé Lot dans son choix? La recherche de biens matériels? Faire encore grandir ses troupeaux? Avoir toujours plus? Il semblerait que c'est ça qui a motivé le choix de Lot. Et dans le texte que nous avons lu, il est difficile de voir en Lot le souci de la recherche de la volonté de Dieu pour lui et sa famille. Lot ne consulte pas Dieu. Il se laisse diriger par ce qu'il voit, par ce qu'il désire. Je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse pour dire simplement qu'il est tout à fait normal que l'homme cherche la réussite et un minimum de confort. Dieu n'a rien contre ça. C'est normal que l'homme cherche à faire prospérer son entreprise. Et c'est Dieu qui a fait prospérer celle d'Abraham. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quand l'homme ne soumet pas ses choix à Dieu et quand il ne prend pas ses décisions en consultant Dieu. Et c'est ce qu'a fait Lot. Et c'est aussi ce que semble avoir fait Abraham quand il a pris Lot avec lui. Je relis Genèse 13, versets 10 et 11. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre. Elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot ne consulte pas Dieu. Il décide simplement de prendre la meilleure part. En tout cas, ce qu'il considérait comme la meilleure part, mais qui était en fait une part empoisonnée. Et son choix sera lourd de conséquences. Abraham, à ce moment-là, on voit qu'il a d'autres priorités. Il veut aller là où Dieu lui demande d'aller, au point qu'il ne choisit pas. Il veut laisser Dieu le diriger. Il attend les consignes de la part de Dieu. Dieu lui a fait des promesses et il sait qu'il va les obtenir. Il sait qu'il lui faut juste obéir, comme Dieu le lui a demandé de faire. Obéir et faire confiance à Dieu. Au verset 3 à 4 du chapitre 13, il est dit qu'Abraham, de retour d'Égypte, avant de se séparer de Lot, prie l'Éternel. Je vous lis ces deux versets. Chapitre 13, versets 3 et 4. D'étape en étape, il retourna de Négoé jusqu'à Bethel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Bethel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et il y pria l'Éternel. Abraham va lui aussi faire des erreurs, car lui aussi a eu des moments dans sa vie où il n'a pas veillé à rechercher la volonté de Dieu, où il n'a pas soigné sa communion avec Dieu. Mais au fond, nous voyons un homme qui cherche Dieu, qui est prêt à reconnaître ses erreurs. Et sa vie de rang, il va chercher Dieu et ses directives. Il est prêt, il veut faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Et son départ pour un pays inconnu, en faisant juste confiance à Dieu, le prouve bien qu'il est prêt à obéir à Dieu. Mais Lot, lui, il a une seule préoccupation, avoir une vie plus facile, plus agréable, plus prospère. La volonté de Dieu ne semble pas être pour lui une priorité. Il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, pas une partie de la plaine, toute la plaine, et tant pis pour Abraham. L'eau n'y manque pas, son avenir est assuré. L'appât du gain l'attire donc, au point qu'il ne voit pas le danger que lui font courir ses choix. Le verset 12 du chapitre 13 dit « Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome. » Et puis il y a ce commentaire qui suit, verset 13 « Or, les gens de Sodome étaient pervertis, ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. » Et un chapitre plus loin, chapitre 14, verset 12, nous voyons que Lot finit par s'installer à Sodome même. Il s'installe délibérément dans la gueule du loup, et vous connaissez la suite de l'histoire. Triste histoire, terrible histoire. La ville est détruite. Dieu ne supportant plus le péché de cette ville, son péché était arrivé à son comble. Il avait atteint des proportions qui rendaient la vie impossible à celui qui avait quelque crainte de Dieu. Dieu la juge, il la détruit avec tous ses habitants. La débauche sexuelle, l'homosexualité en particulier, des habitants avait atteint des proportions que Dieu ne supporte plus. Et Dieu envoie le jugement sur cette ville. Il la détruit et Lot va tout perdre. Ses troupeaux qui faisaient sa richesse, ses biens et même son épouse. Il ne lui reste que les deux filles qui elles aussi ont perdu leur mari avant de quitter Sodome. Ces filles qui en fait ne seront pas une bénédiction pour leur père, bien au contraire. En effet, imprégnées de la mentalité des ténèbres dans lesquelles elles avaient vécu dans cette ville de Sodome, le péché dans leur vie va avoir des conséquences désastreuses. Après la destruction de Sodome, Lot s'enfuit avec elle dans la montagne, car la méchanceté de la ville où il s'était réfugié était telle qu'il craignait, Lot craignait pour leur vie. Remarquez, Dieu vient de détruire cette ville de Sodome et la ville de Gomorre à cause de leur péché, à cause de leur iniquité. Et Lot se réfugie à Tsoar, une ville à proximité. Et qu'est-ce qui est dit de cette ville où Lot se réfugie avec ses filles? Je cite, « Sa méchanceté est telle que Lot craint pour sa vie et celle de ses filles. » Les habitants de cette ville n'ont pas tiré les leçons qu'ils auraient dû tirer en voyant les conséquences du péché de Sodome et Gomorre. Et n'est-ce pas ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui? Tant d'avertissements, tant de mises en garde, tant de souffrances et de détresse à cause de l'incrédulité, à cause de la méchanceté des hommes. Et que fait le monde? Que font les hommes? Ils persistent. Ils s'enfoncent toujours plus dans la méchanceté et le mépris de la parole de Dieu. Nous sommes appelés, nous son Église, nous ses enfants, nous sommes appelés à ne pas suivre l'exemple de ces villes et l'exemple de Lot qui a choisi de s'établir dans cette ville-là. Le peuple de Dieu, l'Église, doit s'éloigner de la méchanceté du monde en appliquant son cœur à aimer Dieu et sa parole. Revenons à Lot. Avec ses deux filles, ils se retirent donc et se cachent en montagne. Ils n'ont plus rien. Ils s'installent dans une caverne, un lieu désert sans habitants. Lot a tout perdu. Il avait de grands troupeaux, il ne lui reste même plus une peau de mouton pour se couvrir. Alors les deux filles s'inquiètent. Il n'y a pas d'homme par ici, se disent-elles. Pas de possibilité donc de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et elles se posent alors la question, comment vont-elles donner une descendance à leur père? Question qui était particulièrement importante à l'époque. Elles mettent alors au point un plan qui leur permettra d'avoir cette descendance souhaitée. Mais à quel prix? Au prix du mépris des lois que Dieu avait données aux hommes. Nous avons lu l'histoire. À tour de rôle, elles enivrent leur père, couchent avec lui, sans, dit le texte, que Lot s'en rende compte de rien. Et chacune d'elles va ensuite accoucher d'un garçon. La plus âgée appelle le sien Moab, et la cadette appelle le sien Ben-Ami. Et ces deux petits-fils de Lot vont devenir respectivement les pères de deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Deux peuples qui, plus tard, vont devenir les ennemis jurés du peuple d'Israël, après qu'Israël se soit installé dans le pays promis de Canaan. À cause de ces peuples, tant de fois Israël va pécher contre Dieu. À cause des Ammonites et des Moabites, tant de fois Israël va souffrir, pleurer, gémir, connaître la détresse. Tout ça parce que Abraham n'a pas tenu compte de tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et il a pris Lot avec lui. Malgré sa foi exemplaire, Abraham a commis des erreurs dans sa vie, mais celle-ci va avoir des conséquences particulièrement graves. Alors Dieu nous parle à nous aussi. Pas de la même manière qu'il a parlé à Abraham, bien sûr, car, dit l'Écriture dans le livre des Hébreux, au tout premier verset, « Dans ces derniers temps, c'est par son Fils » que Dieu nous a parlé. Dieu se révèle donc aux hommes à travers son Fils. Il parle à l'Église, il parle à ses enfants. La Bible dit aussi que Dieu a des projets pour nous. Des projets de bonheur, précise-t-elle dans Jérémie au chapitre 29. Projets de bonheur et de paix. Pas forcément le bonheur tel que le monde le conçoit, tel que le monde le recherche. Mais c'est certain, Dieu veut notre bien. Malheureusement, notre intelligence, notre propre sagesse, qui est tellement contraire à la sagesse de Dieu, elle a ceci de particulier, elle aime bien s'opposer à la sagesse de Dieu. Trop souvent, nous croyons mieux savoir que Dieu, mieux connaître que Dieu. Oh, nous n'allons pas le dire ainsi. Mais en réalité, dans les faits, ne faisons-nous pas et ne décidons-nous pas trop souvent comme bon nous semble, sans vraiment chercher la volonté de Dieu, sans l'interroger, sans le consulter. Et puis, c'est tellement illogique, quand nous sommes dans le pétrin parce que nous avons fait des mauvais choix, nous avons tendance de faire des reproches à Dieu, de l'accuser, de manquer d'amour, de bienveillance. Mais serait-ce sa faute si nous avons fait des mauvais choix? Quelques exemples dans les évangiles de personnes qui ont fait des mauvais choix. Des exemples que vous connaissez, le jeune homme riche, par exemple, à qui Jésus a proposé la vie, la vie qui aurait comblé sa vie. Il n'a pas tenu compte de la proposition de Jésus et il a continué son chemin. Il s'en alla triste, dit le texte. Cet autre homme riche qui ne vivait que pour jouir scandaleusement des biens qui étaient les siens, en détournant son regard chaque fois qu'il croisait celui du pauvre Lazare assis à sa porte. Aucun souci en lui de savoir ce que Dieu pensait de la manière dont il gérait ses biens. Et Jésus dit que les conséquences de son mauvais choix de vivre égoïstement, il va les subir éternellement. Judas qui durant 3 ans entend les paroles de vie du Fils de Dieu. Il est conscient, il sait que Jésus, ce que Jésus attend de lui. Les paroles de Jésus ont dû bien des fois le mettre mal à l'aise. Mais Judas va étouffer cette voix qui si souvent a dû lui faire prendre conscience de la méchanceté de son cœur. Il étouffe la voix d'amour et reçoit son si opposé la voix de Satan qui finit par le posséder et maîtriser complètement sa volonté. Vous connaissez aussi les conséquences de son mauvais choix. Et nous pourrions citer ainsi bien d'autres exemples. Aucun homme ne pourra dire que Dieu ne lui a pas parlé. Quand l'homme fait des mauvais choix, et quand il est fait en connaissance de cause, les conséquences peuvent être désastreuses. Mais il est bon et nécessaire de rappeler ce matin à tout homme que Dieu veut son bien. Dieu a de tout temps dit aux hommes, « Mettez-moi à l'épreuve, recevez mes paroles, mettez-les en pratique et vous verrez comment je serai présent dans vos vies, comment je comblerai votre vie de ma présence et de mes bénédictions. » Et quand Jésus était sur terre, il n'a pas cessé de mettre les hommes devant des choix. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière qu'il a fait resplendir par sa présence, par ses paroles, par ses actes. La plupart d'entre nous qui sommes là, nous connaissons le Seigneur. Nous avons fait le choix de suivre le Seigneur, de suivre sa parole, de l'écouter, de l'entendre et d'avoir le désir de lui obéir. Sa lumière a éclairé nos vies. Nous avons pris la décision de l'aimer et de vivre pour lui. Il est bon de se le rappeler, n'est-ce pas? Mais maintenant, n'oublions pas que tous les jours, nous avons des choix à faire et que la joie, le bonheur de vivre avec le Seigneur, la paix que donne et que veut nous donner l'Esprit Saint dépend en grande partie des choix que nous faisons. Jonas, refusant d'aller à Ninive, n'avait ni la paix ni la joie. Paix et joie que Lot ne connaissait pas non plus quand il habitait au milieu des méchants de Sodome. Il est dit que lui qui était juste aux yeux de Dieu, car malgré des mauvais choix qu'il a fait à un moment donné de sa vie, cet homme avait la crainte de Dieu. Il est dit qu'il était consterné, tourmenté par ce qu'il voyait et par ce qu'il devait subir. Et je cite 2 Pierre 2, versets 7 à 8. Lot était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. En les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Il était tourmenté et il vivait dans la crainte et la peur pour lui et pour sa famille. Mais, et j'arrive à ma conclusion, la Bible dit que si nous confions notre vie à Dieu, il la conduit. C'est une certitude. Si nous lui faisons confiance et sommes prêts à l'entendre, prêts à nous remettre en question, il nous parlera et nous fera connaître sa pensée, sa volonté et nous gardera des erreurs. C'est le désir de Dieu pour nous. Mais si nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, en notre propre sagesse, en omettant de soumettre toute chose à Dieu, alors nous courons le danger de prendre des mauvais chemins. Chemins sans issue, comme cette grotte dans laquelle s'est réfugié Lot et ses deux filles. chemin où Dieu ne pourra pas nous dire « Je suis avec toi pour mener à bien ce projet ». Ne soyons pas étonnés si nous nous trouvons sur ces chemins-là, ne soyons pas étonnés d'entendre alors Dieu nous dire, comme il a dit à Agar, perdu dans le désert, « D'où viens-tu, mais que fais-tu ici ?» Nos mauvais choix peuvent être motivés par des mauvaises intentions. Ça a été le cas pour Lot. Il ne s'est pas intéressé à savoir si Dieu serait avec lui ou pas dans ce qu'il allait entreprendre. Sa seule motivation, c'est lancer dans une entreprise qui lui permettrait de s'enrichir un peu plus. Mais nos mauvais choix peuvent aussi être motivés par de bonnes intentions. Ça a été le cas d'Abraham qui voulait aider son jeune neveu orphelin. Dans ce genre de situation, il est d'autant plus important de consulter Dieu et de chercher à comprendre sa volonté pour ne pas commettre l'erreur de nous opposer à la volonté de Dieu en écoutant simplement notre cœur. Nos sentiments et nos émotions ne sont pas forcément les sentiments et les émotions de Dieu. Et puis, et je ne veux pas terminer sans rappeler cette bonne nouvelle, peut-être que quelqu'un ce matin se sent découragé, désemparé et se dit « Je suis aujourd'hui dans des difficultés, peut-être même dans une grande souffrance parce qu'un jour j'ai fait un mauvais choix. Je n'ai pas consulté Dieu ou je n'ai pas tenu compte de sa volonté. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt à pardonner et à donner une solution pour la vie de chacun de nous. Une bonne solution, sa solution. Sa solution est pour tous ceux qui lui remettent leur vie en mettant toute leur confiance et espérance en lui. Soyons sûrs ce matin, il ne nous condamne pas, il ne condamne personne, mais il nous dit ceci, comme il a dit à ses disciples, « Toi, suis-moi, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Des déclarations comme celle-ci sont nombreuses dans la parole de Dieu. Ce sont des paroles que Dieu nous adresse. « Invoque-moi et je te répondrai. Consulte-moi et je te ferai connaître la voie que tu dois suivre. Serre, garde ma parole dans ton cœur et tu ne pécheras pas contre moi. Obéis à mes consignes, garde ma loi dans ton cœur, ne t'en écarte ni d'un côté ni de l'autre et tu réussiras dans tes entreprises et je te conduirai là où j'ai promis de te conduire. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Voilà ce que de tout mon cœur je vous désire aussi pour vous, et je vous propose encore de prier avec vous. Seigneur, nous avons voulu nous rappeler que dans ton amour, tu veux diriger l'homme qui est incapable de se diriger par lui-même. Nous avons besoin de toi comme ce petit Clément a besoin de ses parents. Merci pour toutes les promesses de ta parole. Tu les donnes parce que tu veux notre bien, parce que tu veux nous garder de nos mauvais choix. Aide-nous simplement à mettre toute notre confiance, tout notre désir à t'entendre et à t'obéir. Pour la gloire de ton nom et pour le bien de chacun de ceux que tu aimes. Amen.